Valentin Jérômoine, merci beaucoup d'être avec nous sur Alpe 1, bonjour.
Bonjour, bonjour à tous.
On va évoquer des jeux un peu particuliers pour vous, car vous avez jamais pu participer. Malheureusement, on reviendra aux Jeux Olympiques, mais vous allez participer à une belle expérience, j'imagine, pour vous. Les Jeux Paralympiques, expliquez-nous un peu cette expérience, comment est venue cette histoire pour devenir donc un guide pour Hyacinthe Deleplace et donc participer à ces futurs Jeux Paralympiques de Pékin.
Eh ben, c'est tout simple. Donc, suite à mon arrêt de carrière, de valide, suite à mon accident et mes genoux qui allaient pas bien, j'ai été contacté donc par le coach de l'handiski, Jess Picard, et par Hyacinthe, en me disant, ils m'ont juste mis un petit message en me disant, bah voilà, écoute, si tu sais pas quoi faire, nous on a une petite idée derrière la tête. Donc là-dessus, je les ai recontactés et on s'est rencontrés, on attaquait à ski ensemble.
Est-ce que ça donne un peu l'impression de enlever le goût d'amertume sur le fait de jamais avoir pu participer à ces jeux, notamment en 2018, un an après vos blessures au genou?
Alors non, ça enlèvera jamais l'amertume. Hein. Moi, j'étais un athlète valide, j'étais un athlète qui aurait été capable potentiellement de faire des médailles, de skier au plus gros niveau. J'ai jamais eu l'occasion, par malchance, de participer aux jeux et ça restera comme ça. J'aurai jamais les anneaux olympiques sur la veste, j'aurai jamais représenté la France, mais c'est un vrai privilège que de pouvoir accompagner Hyacinthe dans son projet et d'essayer qu'on fasse des médailles ensemble.
Pour le coup, si, vous les aurez toujours, les anneaux olympiques, mais en paralympique, et vous pouvez ramener des médailles pour la France, car si je ne me trompe pas, vous avez bien une médaille en tant que guide.
Bien sûr. Alors, par contre, les anneaux olympiques, malheureusement, c'est pas pour les paras, c'est pas le même logo, c'est pas la même chose. Donc, c'est les Jeux paralympiques. Et la médaille sera la même par contre et elle aura tout autant de saveur.
Comme vous l'avez évoqué, vous avez pris votre retraite l'année dernière. Comment ça a été pour, entre guillemets, reprendre les entraînements malgré tout? Comment ça se passe en termes d'entraînement avec Hyacinthe pour se mettre en place pour une course différente pour vous? Peut-être que vous n'avez jamais travaillé ça. Expliquez-nous un peu cette collaboration que j'imagine inédite pour vous.
Alors c'est complètement inédit et c'est surtout très différent du milieu valide. Donc moi je m'entraîne pas spécialement sur tout ce qui est la partie technique et matérielle comme j'aurais pu le faire en valide. C'est vraiment un travail sur notre communication, sur les indications que je lui donne et sur la précision sur laquelle je peux l'emmener à skier vite. Donc voilà, c'est un travail qui se fait au quotidien et c'est surtout de la confiance parce que lui il voit un tout petit peu, il voit ma silhouette, donc le but c'est qu'il se cale sur ma silhouette et qu'il me suive au mieux.
Expliquez-nous un peu comment ça se passe une descente ou un super G, comment ça se passe tout simplement? Vous êtes devant, vous êtes derrière, expliquez-nous un peu le processus de cette course un peu particulière pour le coup.
Bah alors tout simplement je skie devant lui avec une combinaison donc verte parce que ça lui permet de vraiment me différencier des autres couleurs et du coup il me voit un peu mieux, il me distingue mieux on va dire, et il faut qu'il skie entre 5 et 15 mètres derrière moi, donc c'est moi qui régule ma distance devant en fonction de là où on est, et puis je lui annonce je lui fais le départ, je lui annonce les portes qui arrivent, les sauts, les changements de direction, les changements de pente. Voilà, j'essaie de lui donner un maximum d'informations pour qu'il se sente en confiance, qu'il sache où il en est dans sa course et que voilà. Et le but, c'est vraiment qu'il me fasse juste confiance.
Vous avez évoqué des médailles olympiques, en tout cas en termes de médailles mondiales. Vous avez fait une razzia au dernier championnat du monde à Lillehammer en Norvège. Pour rappel, vous êtes son guide sur les épreuves de vitesse, c'est-à-dire le géant, la descente et également la partie vitesse du combiné. J'imagine pour vous, c'est tout comme les mondiaux, c'est 3 médailles d'or.
Eh ben, si on peut faire comme aux mondiaux, effectivement, 3 médailles d'or, ce serait juste un rêve. Donc voilà, ben, on espère. On croise les doigts et on va tout faire pour.
Encore une fois, le ski alpin qui est très bien représenté pour les Hautes-Alpes avec vous-même et surtout Arthur Bauchet, un peu le prodige du ski paralympique avec, encore une fois, de nombreuses médailles dans sa poche, de médailles olympiques, mondiales, mais surtout là, j'imagine pour lui, la volonté de mener haut les couleurs de la France et des Hautes-Alpes. J'imagine pour vous encore une fierté pour notre petit département des Hautes-Alpes d'être aussi haut dans ce sport qu'est le ski alpin.
Bah, bien sûr, ce serait vraiment un vrai plaisir qu'on puisse tous faire des super JO là-bas à Pékin. Ce serait une belle récompense pour le côté paralympique qui a souvent moins de médiatisation que le ski alpin classique. Donc c'est vrai que c'est un peu la seule vitrine qu'on a à nous, donc à l'équipe entière d'être forte et de représenter haut les couleurs de la France et surtout des Hautes-Alpes.
Pour reparler des Hautes-Alpes, pour Serre Merlette, d'où vous êtes pensionnaire, un ancien licencié, avec malheureusement Élisée Barrand qui n'a pas pu participer aux derniers Jeux Olympiques. J'imagine pour vous, en tant que skieur d'Orcières, ça a dû être dur pour vous de voir ça, cette athlète qui avait tout misé sur ces Jeux, qui malheureusement n'a pas pu défendre ses chances pour ce qui a été ces derniers Jeux, quoi qu'il arrive.
Ouais, c'est sûr que c'est très triste quand on prépare une carrière et même une vie pour des Jeux et que le jour de course, on n'est pas capable de skier, parce que là c'est vraiment un pépin physique qui l'a empêché de skier. On est tous vraiment déçus pour elle, et elle, ça doit être très dur pour elle. Donc voilà, j'espère qu'elle va réussir à s'en remettre et qu'elle va pouvoir profiter de la fin de saison.
Est-ce que vous avez eu l'occasion de lui parler ou d'évoquer un peu cette déception? Vous avez pu peut-être parler d'une autre déception que vous avez connue en n'ayant jamais goûté à ces Jeux, et elle, malheureusement, jamais cette médaille qu'elle cherchait tant.
Alors non, j'ai pas du tout pu échanger avec elle, parce qu'elle est rentrée il y a très peu de temps de Chine, et on n'a pas eu l'occasion spécialement d'en parler. On en parlera un petit peu en fin de saison, mais oui, voilà, c'est malheureusement, ça fait partie de la vie de sportif, quel qu'en soit le niveau. Il y a toujours des imprévus et on croise tous ses doigts pour que ça arrive pas le mauvais jour. Et malheureusement pour Alizé, c'est arrivé le mauvais jour.
Vu que je vous ai, j'ai un peu envie d'avoir votre regard sur ces Jeux Olympiques en ski alpin, car vous êtes également consultant chez nos confrères d'Eurosport, du ski alpin qui s'est très bien porté, surtout dans les épreuves de vitesse, comme avec Johan Claret, avec sa belle médaille d'argent. Mais malheureusement, notre ski au alpin était quelque peu en difficulté avec Cyprien Sarrazin, avec Nils Allègre. C'était un peu compliqué, et malheureusement également la chute de Camille Cerruti.
Oui, alors c'est vrai que la blessure de Camille, elle est terrible. Elle intervient sur une descente olympique, donc c'est vraiment... C'est vraiment dommage et c'est vraiment désolant pour l'équipe de France, parce qu'elle était, elle était en pleine forme. Après, malheureusement, Nils Allègre, il n'était pas dans la plus grande forme de sa carrière. Il n'était pas en énorme confiance et malheureusement, au jeu, il n'a pas réussi à mettre les choses d'aplomb. C'est vraiment dommage pour la vitesse et puis pour la technique. Cyprien, on le sait, on le connaît tous, c'est un risque tout. Donc, c'était où ça passe, où ça casse, ça a duré trois portes. C'est comme ça, même si le ski était là, c'est le sport et on ne peut rien y changer.
On revient sur vous pour conclure cette interview avec ces Jeux. Comment ça va se passer, l'organisation? Quand est-ce que c'est prévu le départ, les tests? Et comment vous envisagez surtout cette organisation des plus floues et des plus atypiques, avec ce contexte sanitaire qui est très sévère du côté de Pékin?
C'est vrai que c'est vraiment ultra stressant, parce que moi, j'ai jamais autant stressé de ma vie, parce que tout le projet repose sur deux tests PCR pour pouvoir partir. Donc, s'ils sont négatifs, on part pas. Donc, c'est vraiment hyper stressant. Dans une vie sportive, on contrôle quasiment tout, et là, on contrôle pas. Donc, c'est vraiment un petit peu stressant. Et puis, l'organisation là-bas sur place, on s'attend pas non plus à quelque chose de fou niveau ambiance et niveau. De la vie sur place, mais on sait que la piste est belle, que le village olympique est beau, que ça a tout été fait dans les règles et qu'on a quand même moyen de passer un super moment.
Quel est le programme pour vous en termes de course et en termes de départ, si vous l'avez en tête?
Alors, les dates, je ne les ai pas en tête, malheureusement. On va attaquer par la descente, qui sera la première épreuve du ski alpin, enchaîner avec le super G, il me semble, et le combiné, donc où je serai le guide pour ces trois épreuves-là. Et puis la suite, on verra.